Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de Maud Le Pladec. Bonsoir Maud Le Pladec.
Bonsoir.
Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, Françoise Vergès, Judith Butler, le black féminisme et les nouvelles sorcières américaines avec Starhawk. Puis Meg Stuart, Alain Buffard et Laurence Loupe, Dorothée Mugnanesa et les femmes compositrices du 19e siècle. Maud Le Pladec, en une petite dizaine d'années, vous vous êtes fait un nom, une place, une solide réputation dans le monde de la danse. Chorégraphe, danseuse toujours, et depuis 2017, directrice du Centre chorégraphique national d'Orléans, vous êtes tout cela simultanément et parallèlement, puisque vous dites détester être assignée à une seule tâche ou à une seule catégorie. Vous appartenez à une nouvelle génération de danseurs et de chorégraphes qui, après ceux qui l'ont précédé dans cette voie, continuent d'explorer tous les possibles de l'art chorégraphique, se jouent des codes et de ses conventions, voyagent à ses frontières à la rencontre d'autres disciplines. Votre route a croisé entre autres celle de Mathilde Monnier, Emmanuel Vaudine, Loïc Touzé, Boris Charmatz ou encore celle de Takiko Iwabushi, de Hermann Diefuis, Mette Ingvardsen. Durant cette nuit, dans le programme d'archives que vous avez composé, nous entendrons certains de ceux qui, comme Alain Buffard ou Meg Stuart, ont été pour vous des références, des repères dans la voie que vous tracez dans la danse contemporaine. Nous verrons aussi comment les questions qui travaillent notre époque irriguent vos créations, de quels questionnements naissent et se nourrissent vos spectacles. Un programme d'archives exclusivement ou presque féminin, très centré sur la question féministe, abordé sous différentes facettes. Un programme particulièrement tourné sur la question du genre, nous aurons l'occasion d'y revenir. Maud Le Pladec, comment fait-on, comme vous le faites, pour mener de front une activité de danseuse, toujours interprète pour les autres, votre travail de chorégraphe et la direction d'un centre chorégraphique national? Êtes-vous ce qu'on appelle une boulimique de travail?
Non, en plus, je crois pas que je sois une workaholic, comme on dit. Mais je pense que je suis toujours animée par le même élan, en fait, pour le dire simplement, une sorte d'élan passionné pour la danse. Je danse depuis l'âge de 5-6 ans. J'ai toujours aimé ça et ça a été plus qu'au centre de ma vie, c'est-à-dire que ça a irrigué à peu près tous les domaines de ma vie, et ça a traversé toutes les rencontres que j'ai pu faire, les activités, etc. Et je crois qu'en fait, je suis toujours même si j'ai évolué, même si ma vie a bougé, finalement, cet endroit-là n'a pas changé. Voilà. Sauf que je n'ai plus 6 ans ou 10 ans ou 12 ans, donc j'ai évidemment un tout petit peu, je suis un peu plus fatiguée, mais j'ai assez étonnamment toujours autant d'énergie. Voilà, je crois que j'ai beaucoup d'énergie, donc tant que j'en ai, j'en profite. Un jour ça va s'arrêter, c'est évident, j'en aurai un peu moins.
Je le disais dans ma présentation, votre programme d'archives sera exclusivement féminin, à l'exception d'Alain Buffard qui partage toutefois l'affiche d'une émission avec Laurence Loupe. Que de femmes donc au programme? Cette domination féminine était-elle voulue ou s'est-elle faite sans y penser?
Au départ, elle s'est faite sans y penser, puis finalement, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je recherchais autour de ce qui, voilà, de ce que j'avais envie de partager, de ce qui m'importait, finalement, la femme était centrale. En tout cas, et c'est pas tant, effectivement, je crois qu'il faut tout de suite faire une distinction, la question de la femme que, comme vous l'avez dit, la question féministe. Et j'ai aussi profité de l'occasion parce que ce sont des choses dont je ne parle pas dans mon travail, ou en tout cas qui sont, qui ne sont pas montrés de manière très explicite, c'est toujours dans les implicites du projet. Et finalement, je me suis dit que cette nuit pouvait faire remonter les implicites, et c'était une façon de partager un peu ce qui se passe derrière la scène ou ce que je ne dis pas forcément de manière publique. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'intimité. Le féminisme est un sujet qui m'est proche, qui est intime, et il est très subjectif. C'est aussi de ça dont je voulais parler. C'est aussi la raison pour laquelle il y a une forme de pluralisme, de féminisme en tout cas, et d'approche comme un portrait, comme ça, une galerie de portraits féministes dans ce qu'on va écouter. Et voilà, donc j'ai saisi cette occasion et j'avais envie de partager effectivement les voix de ces femmes, de ces féministes ou de ces hommes qui partagent ces mêmes valeurs.
C'est donc avec Françoise Vergès que s'ouvrira le programme d'archives de votre nuit rêvée. Françoise Vergès, politologue, réunionnaise, fille de Paul Vergès, nièce de Jacques Vergès, une intellectuelle et militante que l'on entendra dans « Autant en emporte les femmes », le quatrième volet de son « À voix nue », alors qu'elle faisait paraître un féminisme décolonial. Pourquoi avoir choisi d'entendre Françoise Vergès et pourquoi précisément sur le féminisme décolonial, Maud Le Pladec ?
En fait, j'ai commencé par Françoise Vergès parce que c'est un des derniers livres que j'ai lus, effectivement, autour du féminisme décolonial. Ce sont des lectures que je découvre, qui répondent à des questions que je me suis toujours posées sur une approche féministe qui me semblait, en tout cas, et moi je vais le dire avec mes mots, une approche féministe Middle Europe, donc blanche, voilà, et je me sentais privilégiée par rapport à certaines femmes, et j'avais envie finalement je me disais, mais comment c'est possible que ce féminisme dont je discute, que je partage avec mes contemporaines, soit plus inclusif? Et puis au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir avec des rencontres que j'ai faites dernièrement, j'ai entendu parler de Françoise Vergès. Elle est beaucoup intervenue, elle est beaucoup passée sur Paris dernièrement. J'ai pas encore eu l'occasion finalement d'aller l'écouter, et puis j'ai lu son dernier livre. Et je me suis aussi penchée de manière plus spécifique sur ce qu'on nomme aujourd'hui l'intersectionnalité. Voilà. Et il me semble que si l'intersectionnalité est traitée d'une manière très spécifique aux États-Unis et concerne évidemment la question du sexisme, du racisme, du féminisme, et qu'elle concerne les hommes et les femmes afro-américaines, en France, l'histoire n'est pas la même. Et je trouvais que Françoise Vergès, en fait, contextualisait finalement cette question de l'intersectionnalité ou du féminisme décolonisé, on va dire, dans un contexte qui était plus proche de mes origines, ou en tout cas d'un contexte français.
Mais dans le grand déséquilibre économique du monde, dans ce qui perdure du fait colonial pour les femmes, mais pas seulement pour elles, par quoi vous sentez-vous concernée ? De quoi vous sentez-vous devoir rendre compte en tant qu'artiste ?
En fait, je ne me sens pas concernée par ces questions-là. Elles ne me concernent pas directement, mais ce qui m'importe aujourd'hui, finalement, c'est dans l'approche féministe que j'ai, qui est une justice pour tous et toutes. Voilà. Basiquement, le féminisme, c'est l'égalité pour tous. Il n'y a pas de question de genre, en fait, dans l'égalité. Il devrait pas y en avoir. Par contre, autour de cette question d'intersectionnalité, il y a quelque chose qui est important pour moi et que j'ai découvert, c'est la question du privilège. Je pense que, en tant que femme française, blanche, et je parle pour moi, j'ai accès je suis privilégiée, en tout cas j'ai accès à des choses que certaines femmes, auxquelles certaines femmes n'ont pas accès, et je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir conscience de ces privilèges-là, et finalement de pouvoir s'intéresser à des questions qui nous sont éloignées et qui sont proches par contre de femmes qui n'ont pas ces privilèges. Et basiquement, on vit dans une société patriarcale, dans une société finalement où il y a des femmes et des hommes sont exclus, soit parce qu'ils appartiennent à une certaine culture, soit parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, et c'est des questions qui sont éminemment présentes aujourd'hui, qui en plus ressortent de plus en plus. Et je crois que si on n'embrasse pas finalement toutes ces questions, la question pas seulement de l'égalité entre hommes et femmes, mais de l'égalité entre tous les hommes et toutes les femmes de toutes les cultures. Voilà. Donc, pour résumer, ça ne me concerne pas, mais je crois aujourd'hui que, pour moi, être féministe, c'est embrasser toutes ces questions qui sont aussi très très loin de ce que l'on est, pour pouvoir soit donner à la parole à ces femmes. Moi, je peux le faire, voilà, en tant que directrice d'un lieu. Je peux donner à la parole à des artistes qui vont pas avoir les mêmes préoccupations que moi, mais qui ces femmes vont avoir des choses à dire. Il faut qu'elles soient entendues. Et aussi, ça permet des échanges, ça permet l'empathie. Je crois que voilà, la question de l'empathie, en fait, est centrale dans mon approche féministe. Et je ne veux pas seulement partir de moi, parler de moi, mais aussi pouvoir embrasser les questions des autres.
Françoise Vergès parle des femmes racisées, des femmes invisibles. Racisées, est-ce que vous reprenez ce terme sur lequel Françoise Vergès a été beaucoup attaquée, Maud Le Prévec ?
C'est une très bonne question, c'est très compliqué. Et je vois même qu'en parlant là, à la radio, c'est toujours compliqué finalement, les termes que l'on emploie. Parce que finalement, quand Françoise Vergès emploie le mot racisé, il y a derrière ce mot toute une réflexion, toute une théorie, finalement toute la construction d'une pensée qu'elle peut défendre en fait, sur laquelle elle peut s'exprimer, sur laquelle elle peut s'expliquer. À partir du moment, et c'est mon cas, où on n'est pas experte d'un sujet, on va effectivement employer certains mots en faisant très très attention, en prenant des pincettes. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi à certains moments, aller droit au but, c'est un peu comme le mot féministe. Il a une très 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 mauvaise presse. Et je sais que entre amis, on discute beaucoup de ça. On se dit, mais on n'ose même pas dire que l'on est féministe. Voilà. Et je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir parler des choses telles qu'on a envie d'en parler. Voilà. Oui, effectivement, Françoise Vergès a été attaquée autour de l'emploi, enfin, de ce mot-là. Mais je crois que la manière dont elle s'exprime sur ce sujet est extrêmement claire.
Et nous éclaire aussi.
Et oui. Nous éclaire aussi. Encore une fois, là, et vu le temps qui nous est imparti, on est aussi dans une discussion. C'est pas des sujets qui peuvent être traités de manière très rapide. Donc, moi, je l'emploierai pas aussi aisément que Françoise Vergès, mais effectivement, je la rejoins en tout cas dans sa pensée.
Est-ce que vous vivez comme une artiste blanche, Maud Le Prévec ?
Oui. Et c'est ce que je découvre, parfois avec beaucoup d'humilité, aussi beaucoup de maladresse, beaucoup de précaution surtout. C'est que je me rends compte finalement qu'entre la femme que je suis et ce qui me traverse en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que personne, et le travail que je développe, il y a comme un gap, il y a encore un écart. Et voilà, je le répète, j'en profite là cette nuit pour partager tout ça, parce que ce sont pas forcément des sujets ou des questions qui sont extrêmement présentes dans mon travail. Voilà, parce que ce sont des sujets délicats et que j'ai toujours pensé finalement que la danse ou que le format en fait du spectacle, une heure, mais même aussi les conditions de partage de ces formes-là. On arrive dans un théâtre, enfin si tant est que ça se passe dans un théâtre, les gens s'assoient, on fait le noir, les danseurs sont sur le plateau ou arrivent, et puis on a une heure. Je trouve que en tout cas personnellement, ces formats-là, le format du spectacle et la danse aussi comme médium, en tout cas, dans mon travail, n'a pas été, je dirais, le biais le plus facile pour exprimer ces questions qui sont si complexes. J'ai essayé de le faire au travers d'une pièce que j'ai créée et qui s'intitule « Démocratie ». Donc j'ai travaillé à partir de l'œuvre de Miguel Abinsour qui s'appelait « La démocratie contre l'État ». J'ai fait une pièce qui s'appelait « Démocratie ». C'est ma pièce qui a le plus tourné et c'est celle qui m'a... Ça a été un échec intellectuel pour moi. Je le dis aussi simplement, avec beaucoup de franchise.
Parce que le spectacle ne vous...
N'était pas à la hauteur,
ouais.
Non.
Du sujet, enfin, tel sujet, que vous
voilà, envisagez. Tel que moi j'avais pu l'expérimenter, le traverser. Pourquoi ? Parce qu'on doit aussi réduire, parce que c'est très formaté. Alors, je pourrais inventer des formes qui finalement permettent de partager cette recherche-là, qui est extrêmement aussi, c'est une pensée théorique. Mais en tout cas, le constat que j'ai fait après cette pièce, c'est que les mots me manquaient. Voilà. Donc, si je fais une pièce où je partage, une pièce de danse, où je partage ces sujets, et je l'ai fait une fois avec Hunted, et d'ailleurs c'est Dorothée Mugnanesa qui a repris le rôle de Okwi Okpokwasili, qui est une performeuse afro-américaine qui traite elle aussi de ces sujets-là. Eh bien, si je le fais, il faut qu'il y ait du texte. Et en l'occurrence, dans cette pièce Untit, ça a été un monologue d'une heure. Voilà. Donc, j'ai besoin d'en parler. Et j'ai besoin d'en parler bien. Donc, j'ai besoin aussi de prendre ce temps-là. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin. Donc, j'ai pas trouvé encore pour l'instant le moyen de partager à travers mon art, la danse, ces problématiques-là. La femme que je suis, c'était pour dire ça, la femme que je suis et l'artiste que je suis ne dialogue pas encore de manière très très claire autour de
avec
ça.
Avec ces sujets.
Avec ces sujets. Et si ces sujets apparaissent dans mes pièces, c'est toujours au contour, voilà, d'un geste. Ou au contraire, de manière très radicale et très frontale. Voilà, ce qui est le cas d'Unted et qui est une pièce, encore une fois, un monologue d'une heure qui parle au sens très très littéral du terme de cela.
Des femmes dans votre nuit, des émissions questionnant le féminisme et aussi le genre. Après Françoise Vergès, c'est avec Judith Butler que se poursuivra votre programme. Judith Butler, philosophe américaine, professeure à Berkeley, internationalement célèbre pour son travail sur le genre. En quoi la lecture de Butler a-t-elle été déterminante pour vous, si elle a été déterminante, Maud de Pladec?
Oui, elle a été vraiment déterminante, mais il y a déjà maintenant presque une vingtaine d'années. Moi, j'ai découvert Judith Butler grâce à Laurence Loupe. Donc, j'ai rencontré Laurence Loupe dans les années 2000. J'étais interprète, je sortais en fait d'Exerce, la formation qui était dispensée au Centre chorégraphique national de Montpellier, à l'époque dirigée par Mathilde Monnier. Et j'avais une soif, en fait, de connaissances, d'apprentissage. Donc, j'avais envie de retourner à l'école, pour dire simplement, ou en tout cas d'y aller, puisque moi, j'ai arrêté après le bac. Donc, j'avais envie d'études universitaires. Et comme j'étais très, très impliquée déjà dans ma carrière de danseuse, je n'avais pas le temps. Et à l'époque, Laurence Loupe, qui était une critique de danse qui travaillait beaucoup et qui était très proactive dans le milieu de la danse, proposer aussi une formation en fait théorique et pratique dans un CFEDEM à Aubagne, une formation de 3 ans qui permettait de se former à la fois à l'histoire de la danse et à la critique de la danse. Et donc j'ai fait cette formation à ses côtés et donc j'ai découvert Laurence. Et en fait, ce qui était assez génial, c'est que à l'époque, on n'entendait pas vraiment parler des cultural studies en France, des gender studies, Judith Butler encore moins. Donc c'est grâce à Laurence Loupe que finalement on a eu accès à une histoire de l'art, de la danse en particulier, et donc à notre propre formation voilà, d'une critique de danse, hein, en tout cas un accès comme ça à la critique de la danse, mais via une approche à la fois sociologique, anthropologique, etc. Et donc, j'ai découvert Judith Butler à ce moment-là. C'était aussi la question queer apparaissait. C'était comme une espèce de savon qui nous glissait entre les mains. On n'était pas très très sûr de quoi il s'agissait, enfin, on savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Je me souviens que Béatrice Preciado donnait des stages à ce moment-là où on pouvait expérimenter, voilà, la question du genre. Et moi, c'était, alors, si du côté de la pratique, parce que c'est quelqu'un, en fait, Judith Butler, qui mêle, en tout cas, qui arrive à faire se rejoindre la question de la pratique du genre, donc qui est vraiment comment on incarne, comment on embody, on dit. Donc comment finalement le genre est vécu de manière, je dirais, à la fois physiologique, physique, psychique dans son corps. Et elle en parle extrêmement bien. Donc c'est pas pour rien finalement que son nom revenait très très souvent dans le milieu de la danse, puisque finalement le corps, la question du corps est centrale. Et en même temps, quand on l'écoute, c'est quelqu'un qui a une pensée extrêmement claire, même si elle a été beaucoup critiquée sur la façon dont elle écrit, dont elle parle du genre. Mais moi, en tout cas, ça me parvient. J'ai eu comme une sorte de choc à la fois esthétique et à la fois intellectuel. Donc voilà, donc j'ai rencontré finalement Judith Butler par le biais de la danse. C'est quelqu'un qui rejoint la question de la performance et de l'identité sexuelle du genre. Et c'est aussi quelqu'un qui, très concrètement, m'a fait comprendre de manière très théorique ce que c'était que le genre et le queer. Donc j'avais envie de partager, en tout cas de partager ça avec les auditeurs, parce que c'est comme Foucault, c'est comme Derrida, c'est comme Deleuze. Même si elle est encore très très présente sur la scène féministe, ça a été presque pour moi les premières découvertes en fait autour de ces questions-là. En tout cas, ces textes sont pionniers chez moi. Non. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de la réécouter, puisque ça fait longtemps en fait que j'ai pas lu et pas écouté Judith Butler.
Américaine, juive, femme, lesbienne, Judith Butler dit voyager d'une identité à une autre. Est-ce que vous partagez cette idée que chacun de nous voyage d'une identité à une autre ?
Ah oui, oui, oui. Je pense qu'à partir du moment où on l'admet et on se le permet, je crois profondément que nous ne sommes pas déterminés à une identité ou à un genre, et que c'est une construction à la fois intime, sociale, culturelle. Et que si tant est qu'on se permet ce voyage est magnifique. Voilà. Donc oui, moi, je vais répondre simplement oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines identités qui nous domineraient plus que d'autres ? Ça bouge peut-être.
Ça bouge, oui. Encore une fois, c'est des questions de conscience et de conscience de là où on est, de là où on habite, de... Voilà, je pense profondément qu'on est dans une société patriarcale, et ces questions, le politique infiltre l'intime. Donc, on peut pas déconstruire des siècles de patriarcat, on peut pas déconstruire ça. Mais par contre, si on en prend conscience, on peut finalement jouer des codes et se construire sa propre identité. Et moi, je trouve que si on se positionne de cette manière-là, ou en tout cas si on en prend intimement conscience, on se sent extrêmement libre. Et on peut s'affranchir de normes qui modélisent énormément nos sociétés, qui modélisent énormément nos vies, mais encore une fois, de manière très inconsciente. Donc, il faut ces prises de conscience-là.
Et en même temps, Judith Butler dit « Le genre est toujours un échec, tout le monde échoue.
» Oui, parce que à partir du moment où c'est toute la question des catégories, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une définition sur quelque chose, ça cloisonne, voilà. Donc on décloisonne et puis une autre catégorie apparaît et puis il faut du coup la déconstruire et on décloisonne, et c'est une suite sans fin de construction et déconstruction. Mais finalement, vous parlez de voyage, c'est ce voyage-là qui est beau, c'est le processus de ça. Donc et c'est ça qui offre énormément de liberté, mais je pense aussi de liberté à la fois. De liberté dans comment on pratique nos vies, mais de liberté aussi, surtout de mobilité mentale, de mobilité intellectuelle, de mobilité dans la tête, quoi. Et du coup, d'ouverture, ça crée beaucoup d'ouverture. On a une vision extrêmement élargie du monde. Et je reviens au début, et c'est ça qui crée l'empathie. On peut pas comprendre l'autre si on est fermé, voilà. Donc le fait de déconstruire, de se poser des questions, de prendre de la distance et de se dire non, rien n'est acquis, mais tout est construction. Donc comment je me définis, quelle est ma place, qui je suis. Voilà, je crois que c'est le principe même d'être vivant. Enfin, voilà, donc c'est ça qui nous rend vivants, et c'est ça qui fait aussi qu'on voit chez l'autre, je sais pas, la nature même de l'être vivant qu'il est. Voilà.
Mais Judith Butler dit d'elle-même « Je n'ai jamais trouvé ma place, je ne la trouverai jamais ». Mais est-ce que ce n'est pas ainsi à présent un monde dans lequel chacun peine à trouver sa place ?
Oui, mais c'est le principe même d'être en vie. Je crois que on la trouvera jamais. Mais par contre, ce qui est beau, c'est de la chercher et aussi de partager ça. De partager comment on ne trouve pas sa place ou comment on la trouve à un moment donné, puisque c'est pas vrai qu'on la trouve pas. On la trouve, puis on la perd, et puis on la cherche encore, et puis on la retrouve. Voilà, tout est en mouvement. Enfin, donc, et peut-être que c'est parce que je suis danseuse que je comprends ça. Et que je comprends qu'en fait, c'est le mouvement, c'est ce qui se passe entre deux points de stabilité, voilà. Donc,
la danse est-elle pas par excellence le lieu, l'espace de création où on peut librement jouer avec le genre, jouer à le défaire, le refaire.
Mais bien sûr. Je pense, et jouer avec la norme dans sa définition un peu plus globale, quoi. Je crois que, et puis je pense que c'est important, effectivement, de d'apporter ces sujets-là sur les plateaux de danse, puisque des corps sont en représentation, et je crois qu'il faut qu'on représente la richesse et la diversité des individus et des corps présents aujourd'hui dans ce monde. Voilà.
Mais est-ce que les corps dansants ont un genre, Maud Le Pladec ?
C'est une bonne question. En tout cas, si on prend l'histoire de la danse, l'histoire de la danse est extrêmement genrée. Voilà. Et je crois que la danse contemporaine a déconstruit ces codes-là. Et qu'on continue à le faire. En tout cas, il faut continuer à le faire. Voilà. Est-ce que la danse a un genre ? Elle ne devrait pas en avoir. La danse, en tout cas, à mon sens, n'a pas de genre. Elle se fait au-delà de la question du genre.
I came into this world, I had crack in me, and some blood on me, and some lead in me. Death creaking, mama spitting, get your hands off me, and get these chains off me.
Get it off me.
Came in the world out of pussy, mama pushed me. 5 seconds on the earth, block fit me. From all the statues,
daily with the slasher.
Wanna be a master, benefactor,
evil, evil.
Back off the planet, damn they can't stand it. Staying in my power over Mars with my ancestors. Death the power, tongue hit my spine, keep my breathing in line. Now I'm back on the planet, I stay slanted. Mobbing like 3 wishes granted. Still the black woman ain't shit for you. I boss shit, most don't know cause they horse shit. Big donkey dick, I don't miss shit. My shit sit like milk and big tits. Breastfeeding in public while me mugging. I don't care either, I don't like Rita. Spit down the back like Frida. The whip be like that, no Philly where we hang that. Southern trees and metal hooks chained as a sniper. Said your land returning from the dead with a hatchet. River blue, none of y'all can match.
Nous venons d'entendre More Mother. Qui est More Mother, Maud Le Pladec ?
Alors, c'est une artiste, poétesse, chanteuse qui vit à Philadelphie, donc qui est américaine, que j'ai découverte dernièrement. Elle rejoint, je dirais, un courant plutôt afro-futurisme, afro-féministe. Donc encore une autre branche, puisque le féminisme est pluriel hein, dans son genre pour le coup. Je suis une grande fan de Kate Tempest et je cherchais en fait son homologue américaine et je l'ai trouvée.
Alors More Mother parle elle de guerre des classes. Diriez-vous femme prolétaire de tous les pays, unissez-vous, Maud Le Pladec ?
Oui. Oui, je dirais ça. Je viens moi-même en fait d'un milieu très prolétaire. J'ai eu la sensation de m'être émancipée d'un milieu. Et je garde en moi finalement ces origines-là. Donc quand on parle de construction, je l'ai vécu au sens propre et concret du terme. S'émanciper d'un milieu, c'est assez beau parce que c'est à la fois faire le rejet de certaines choses et en même temps apprécier ce que l'on rejette, puisque sans ces choses-là, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus. Et c'est encore une fois, voilà, quand je dis c'est une prise de conscience, c'est-à-dire que pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir j'appartiens à la classe prolétaire, il faut qu'on en ait conscience, quoi. Il faut qu'on ait conscience déjà qu'il y ait des classes, il faut qu'on ait conscience que c'est pas déterminé, il faut qu'on ait conscience que effectivement on appartient à un certain milieu qui lui-même est subordonné à d'autres, etc. Donc Donc oui, moi je dirais ça, oui.
Avec la troisième archive de cette nuit, Devenir femme et après, d'Amina Wadoud à Beyoncé, Décloisonner le féminisme, nous resterons dans les questions de genre et de féminisme avec un numéro de Culture Monde diffusé en 2015 dans le cadre d'une semaine consacrée aux droits des femmes et aux inégalités de genre. Beyoncé, dont il est question dans cette archive, est-elle pour vous une figure du féminisme, Maud Le Pladec?
C'est une très bonne question et je savais qu'on allait me la poser. Donc en fait... Oui, moi ce que je trouve important, il y a un faux débat en fait autour du féminisme qui serait de dire est-ce que ça c'est un vrai féminisme ou est-ce que ça c'est un faux féminisme. En gros, en d'autres termes, la question qu'on pourrait poser c'est est-ce que Beyoncé est vraiment une féministe. Moi je pense que à partir du moment où une femme se dit féministe, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne le sont pas, hein, voilà. Donc il faut bien faire la différence entre être une femme et être féministe. Donc toutes les femmes ne sont pas féministes. C'est intéressant d'ailleurs de poser aux femmes qui ne le sont pas cette question, pourquoi vous ne l'êtes pas, et de les entendre, parce qu'on se rend compte que finalement c'est que elles ont une vision du féminisme qui est souvent erronée, voilà. Et en tout cas, donc je reviens donc au faux débat qui serait de dire voilà, il y a un vrai ou un faux féminisme. Moi je pense que ce qui est intéressant chez Beyoncé, c'est que c'est une personnalité extrêmement médiatisée, et à partir du moment où elle dit je suis féministe, je trouve ça génial. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que elle dit je suis féministe, et c'est aujourd'hui, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour moi quelque chose d'extrêmement fort, puisque le féminisme n'a pas bonne presse. On sait qu'elle touche un auditoire extrêmement large. Et que quelque part, donc la question se pose pas. Elle est féministe. Après, la façon dont elle se sent féministe, c'est son problème. C'est voilà, le féminisme, comme je le dis, est pas un débat de genre. C'est une question extrêmement intime. Mais Beyoncé dit « je suis féministe ». À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à dire en ce qui me concerne.
Comme je le disais, l'émission que nous entendrons s'inscrivait dans une semaine que Culture Monde consacrait aux droits des femmes et aux inégalités de genre. Et cela à l'occasion de la tenue à Deauville du 11e Forum des femmes pour l'économie et la société, le Davos des femmes, comme on l'appelle parfois, créé à l'initiative de femmes chefs d'entreprise, de femmes d'affaires, de femmes politiques, visant à une plus grande représentativité des femmes, une plus grande mixité hommes-femmes dans tous les organes de pouvoir de la société. Que vous inspire ce féminisme-là, Maud Le Pladec?
C'est-à-dire...
Au fond, le libéralisme n'a pas de sexe. Est-ce qu'on pourrait pas résumer un petit peu les choses comme ça?
Oui. Mais finalement, ce que ça montre, et qui est bien pour moi, c'est que la question du... Enfin, le sexisme est vécu de manière très très différente. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que le sexisme est présent.
Partout.
Partout.
À tous les étages.
Et à tous les étages. Et il est vécu par toutes les femmes. Je crois qu'en fait... Voilà, encore une fois, moi je suis pour un féminisme inclusif qui inclut toutes les femmes, de toutes les catégories sociales, de toutes les catégories de genre. Donc je pense que ce pour quoi on se bat fondamentalement, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est ce droit-là, donc on partage les mêmes valeurs, et c'est important parce que finalement, on a pensé très souvent que le féminisme excluait les hommes, et je pense que le féminisme doit inclure toutes les femmes qui se disent féministes dans la manière dont elles le vivent, mais aussi les hommes. Donc voilà, donc le féminisme n'a pas de genre et n'a pas de classe, voilà.
Vous dirigez depuis 2017 le Centre chorégraphique national d'Orléans. Vous voyez-vous comme une femme de pouvoir?
Alors, moi non. Mais ce dont je me suis aperçue, c'est que les gens, oui. Si je le partage d'une manière, voilà, aussi très personnelle et très intime, c'est pas quelque chose que je vis très bien. Voilà. Et j'en discute beaucoup avec mes amis, mes proches. Et en même temps, il faut que j'accepte que oui, j'ai un certain pouvoir. J'ai le pouvoir d'accompagner ou pas des artistes, ce qui veut dire concrètement de donner de l'argent ou pas à des artistes, de faire en sorte ou pas qu'il soit visible. Donc oui, j'ai une forme de pouvoir. Ce qui est compliqué pour moi.
Et qui change les rapports.
Et ce qui change les rapports. Exactement. Ce qui change les rapports. Et ce qui est compliqué, c'est que ça change le rapport. C'est-à-dire que moi, mon rapport n'a pas changé, mais je vois bien que le rapport des autres a changé. Donc je cherche des solutions pour trouver plus d'horizontalité là-dedans. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'être, bon, de rester la même, mais de garder le contact, en fait. De garder le contact avec les gens, et ça passe par des choses très très simples, hein. C'est de continuer à parce que je suis très occupée, donc en fait le contact est vite coupé, on est vite coupé des gens, donc si on s'écoute, on n'a pas le temps de répondre aux mails, on n'a pas le temps de recevoir les gens, on n'a pas le temps d'aller voir les spectacles, on n'a pas le temps de discuter. Et en fait ce temps là je le prends, je continue de le prendre, donc je vis mon métier de danseuse, de chorégraphe et d'artiste de la même manière qu'avant. Donc on parlait de tout ce que j'avais à faire, mais se rajoute à mon activité de danseuse, de chorégraphe et de directrice de lieu une autre activité beaucoup plus périphérique, mais qui est beaucoup plus importante, qui est de continuer de rencontrer les gens, de parler avec eux, d'être au plus proche finalement des artistes. Et aussi de partager ces questions-là avec eux. J'aimerais, mais je peux pas. J'aimerais donner plus de moyens à plus de gens, mais je ne peux pas. Et de le dire avec mes mots. Voilà, la connexion pour moi est importante parce que finalement, ça défait cette espèce de vision plus hiérarchique que l'on pourrait avoir. Et on continue finalement de dialoguer de manière horizontale avec les gens.
Peu de femmes dirigent ce genre de centre comme vous le faites, Maud Le Pladec. J'en ai compté 3 sur une petite vingtaine, si je ne me trompe pas. Est-ce trop peu ou est-ce sans importance?
Ah non, c'est trop peu. C'est très important. Et c'est très important. Et la question de la parité, donc, est au centre des candidatures, puisqu'il y a beaucoup de turnover au sein de tous les labels, en fait, qui représentent voilà, les politiques culturelles françaises et l'inscription de tous les arts. Voilà, dans ces instances finalement de légitimation aussi de ces pratiques-là artistiques. Et c'est compliqué parce que à la fois il faut que la question de la parité soit centrale et en même temps il ne faut pas qu'elle guide le pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'elle devance une question beaucoup plus importante, tout aussi importante pour moi, qui est la création, c'est-à-dire de choisir à la fois un bon directeur ou une bonne directrice de lieu avec un projet artistique intéressant et qui soit adapté au territoire et adapté aux questions du moment. Voilà. Donc c'est très compliqué parce que souvent, finalement, par manque de présence de femmes, on va choisir une femme plus qu'un projet. Et je le dis, hein, je mets un pavé dans la mare, mais c'est quand même ça, c'est une réalité, ce qui est pour moi dommageable aussi.
Donc la parité à tout prix, pas forcément, non?
Pas forcément. Et en même temps, je dirais quand même. Parce que oui, qu'est-ce qui est plus important, qu'une femme dirige un lieu ou qu'un projet soit adapté au lieu? Moi, je ne sais pas. Hein. Je suis très, très partagée. Voilà, je suis très partagée. Moi, je pense que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'incite souvent mes amies femmes à candidater ou à faire des projets, à être beaucoup plus présentes et visibles, ce qui est important, c'est que les femmes fassent. Voilà, et fassent bien.
Maud Le Pladec, c'est avec les nouvelles sorcières américaines, le mouvement Wiccan, que se terminera la première partie du programme d'archives de votre nuit rêvée. Dites-nous ce qu'est la Wicca et qui est celle que l'on appelle Starhawk, qui en est la représentante la plus en vue.
Je suis toujours obligée de regarder mes petites notes quand il s'agit du mouvement Wicca, parce que c'est aussi assez complexe. Le terme Wicca, c'est un terme ancien qui voulait dire sagesse en vieil anglais. Et qui a à voir en fait avec la sorcellerie aussi, d'où le terme actuel witchcraft, je crois. Et donc en fait, le Wicca, c'est le assez paradoxalement, puisque c'est plutôt un mouvement dirigé par des femmes, c'est le mot sorcier, donc c'est le mot c'est le masculin de sorcière en fait, Wicca. Et donc le mouvement Wicca, ça serait en ça, c'est comme je le disais, c'est très relié à la sorcellerie. Donc, ça serait comment pratiquer par magie, comment ensorceler. Voilà. Ce qu'on appelle le mouvement Wicca englobe un autre mouvement qu'on appelle le néopaganisme. Voilà. Moi, ce que j'aime, en tout cas, ce qui me préoccupe, parce que je vais parler à partir de ce que je regarde là-dedans. C'est que finalement, dans le mouvement Wicca, on a le croisement de plusieurs préoccupations qui me semblent importantes en ce moment, donc qui est le féminisme, et je pense qu'on a compris, mais aussi l'écologie, mais aussi la naturopathie, mais aussi la femme. La femme au sens le plus presque ésotérique du terme. Et après, c'est un mouvement qui est tellement ouvert que on peut aussi y mettre des formes de religion, d'autres formes de spiritualité, le chamanisme, etc. Donc finalement, dans ce mouvement, en tout cas en ce qui me concerne, ce mouvement regroupe beaucoup de pratiques, que en tout cas beaucoup d'art que je pratique moi-même. Je vais voir des médiums depuis plus de 20 ans, je pratique les cartes, je travaille avec des chamans, avec des énergéticiens, je suis féministe. La question de l'écologie est évidemment extrêmement présente dans mon quotidien, encore pas vraiment dans mon travail. C'est pas des questions, on ne traite pas forcément dans son travail de tous les sujets de nos vies, hein, voilà. Et dans le mouvement Wicca, il y a tout ça.
Donc, et cette Wicca vous a même inspiré un spectacle, le spectacle Haunted, oui, dont vous parliez tout à l'heure.
Oui. Et en plus, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que ça rejoignait aussi un fait historique qui était la chasse aux sorcières, qui s'est passée plutôt en Europe et qui est reliée, en tout cas la chasse aux sorcières, est fortement reliée avec les prémices du libéralisme. C'est-à-dire qu'on a chassé, pour dire simplement, je vais encore une fois vulgariser tout ça et faire un résumé. Donc on a chassé des femmes de leur terre pour récupérer en fait leurs biens et leurs terres et pour y installer c'est les débuts du capitalisme. En fait, on a capitalisé ces terres et des femmes se sont retrouvées à la rue avec leurs enfants et elles ont commencé à protester et elles se sont retrouvées au bûcher. Encore une fois, je résume. Donc en fait, c'était intéressant finalement de voir que de la même manière que Charcot, avec l'hystérie, a créé une sorte de catégorie aussi de femmes, donc les hystériques, qui finalement étaient une sorte de... Parce que tout ça, ce sont des hommes, hein, qui ont... Enfin, on parle même de l'invention de l'hystérie. Hein, donc voilà, étymologiquement, hystérie, ça veut dire l'utérus qui s'agit. Donc on soignait et c'est approprié aux femmes. Donc c'est un phénomène en fait de société inventé. Enfin, c'est une pathologie inventée par les hommes. Et donc la chasse aux sorcières... c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont envoyé des femmes au bûcher parce qu'elles protestaient. Parce que elles étaient affamées, il fallait qu'elles nourrissent leurs enfants, elles ont commencé à protester et en fait on a dit ce sont des sorcières, regardez. Et souvent c'était effectivement des femmes qui soignaient, des femmes qui écoutaient, des femmes qui étaient importantes dans les villages, qui possédaient des terres. On les a dépossédées, on les a envoyées au bûcher, comme ça on n'en parlait plus. Je résume, mais c'est quand même c'est intéressant puisque finalement les nouvelles sorcières aujourd'hui sont des militantistes qui sortent dans la rue et qui utilisent, je dirais, cette figure de la sorcière pour qui réutilisent cette figure de la sorcière encore une fois dans un mouvement de protestation et de reconnaissance des droits de ces femmes. Donc on relit finalement l'histoire, voilà.
Merci Maud Le Pladec. Nous allons écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Dans un instant, le quatrième temps de La Voix nue de Françoise Vergès au micro de Najma Bouakra en 2018, Judith Butler telle qu'en elle-même dans Matière à penser de Frédéric Worms en 2018, Devenir femme et après d'Amina Wadou, da Beyoncé, Décloisonner le féminisme par Florian Delorme dans Culture Monde en 2015 et enfin Les nouvelles sorcières américaines, le mouvement Wiccan par Michel Cazenave dans Les vivants et les dieux en 2003. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 3 heures pour parler de la suite de votre programme, Meg Stuart, Alain Buffard et Laurence Loupe, Dorothée Mounianeza et les femmes compositrices du 19e siècle. À tout à l'heure, Maud Le Pladec.
À tout à l'heure.